Cinquième course, Paris, Nakhitchevan, le bond en avant de l'humanité. Cinquième course, le bond en avant de l'humanité. Chapitre 48. Igdir, Turquie. Le car rouillé traversait Igdir. Par les vitres sales, Idil regardait passer les immeubles, le long de la grande avenue d'Evren Pacha, son sinistre décor quotidien. La laideur de tout ce qui l'entourait contrastait avec la beauté irréelle des passagers de ce car brinque-ballant. Idil ne pensait pas au conducteur, bien entendu. Son horrible cicatrice en forme de branche d'arbre courant sur les trois quarts de son crâne donnait à Idil l'impression qu'on avait recousu la tête de ce type corpulent après avoir remis en vrac toute sa cervelle à l'intérieur. Non, Idil était envoûté par les quatre filles assises dans le car. Peut-être les plus belles du Kurdistan, toutes réunies, comme par enchantement, dans ce bahut qui n'avait rien d'un carrosse. Les temps sont durs pour Cendrillon, pensa Idil. Elle se rappelait parfaitement comment elle s'était retrouvée là. Un type recrutait des filles à Vannes, si possible les plus jolies, pour le compte d'un mania du pétrole au Nakhitchevan, Parastoukan. Histoire de corser le casting, le milliardaire exigeait que les filles aient les yeux verts, ce qui était plutôt rare au Kurdistan, très rare même. Idil avait les yeux verts. Les quatre filles aussi. Le balafré avait été clair. Il s'agissait d'un concours. Une seule fille, au final, serait engagée. Idil avait davantage retenu le salaire astronomique promis à la lauréate que les détails du travail à fournir. Servir de potiche? Jouer les accompagnatrices de charme? Devenir l'odalisque d'un sérail? Idil n'était pas dupe. On ne les faisait pas venir pour leur culture générale. Elle s'en fichait. Elle n'avait pas froid aux yeux. Elle comptait bien saisir sa chance. Le car sortait d'Igdir. Le regard d'Idil glissait sur les cinq épées géantes. Les épées de la honte, comme disaient les Arméniens. Idil étudiait à Vannes depuis 2 ans. Enfin, plus exactement, traînait sa jolie silhouette à l'université de Vannes. Là-bas, les Kurdes pouvaient vivre à peu près tranquilles. Mais à chaque fois qu'Idil revenait près de la frontière arménienne, les souvenirs de ses parents persécutés lui revenaient. Les provocations des Turcs pendant toute son enfance, les contrôles militaires, l'interdiction de parler kurde, de s'habiller kurde. Elle était partie tenter sa chance à Vannes, pendant que son grand frère s'était exilé à Istanbul et se bousillait la santé à sabler des djinns pour un salaire de misère. Son corps était un don du ciel. Idil l'avait compris depuis son enfance. Son seul atout pour échapper à toute cette crasse. Mais quel atout ! À l'université de Vannes, tous les hommes la dévoraient des yeux, les étudiants comme les profs, les Turcs comme les Kurdes. Tous louchaient sur sa peau mate, ses yeux verts en amande, ses pommettes saillantes, sa taille élancée, son cul moulé dans un jean. Le car roulait maintenant dans la plaine, déplaçant un nuage de poussière dans son sillage. Des moutons maigres qui broutaient l'herbe jaunie se retournaient sur leur passage. Idil était la plus belle, elle devait s'en convaincre. Ce concours, c'était la chance de sa vie. Elle se retourna. Depuis le début, elle hésitait. L'ambiance dans le car était rendue étrange par la présence d'une autre personne. Une petite fille d'une dizaine d'années, installée à l'arrière, seule, murée dans son silence, recroquevillée sur un petit objet en bois qu'elle serrait dans ses mains. L'instinct d'Idil lui recommandait la prudence. « Mêle-toi de tes affaires, ma belle !» Chaque passagère de ce car devait rester à sa place. Outre le conducteur balafré, 2 hommes se tenaient sur la banquette arrière du véhicule, genre garde du corps taciturne. Missionnés pour protéger les belles, les surveiller aussi. Des gardiens du harem, bruns et barbus, tendance eunuque, se rassurait-elle. Idil se cala dans le fauteuil défoncé et évalua la concurrence. Une fille au teint de lait était assise 3 sièges devant elle, adorable comme une poupée de porcelaine, mais Idil la trouva trop jeune. 17 ans maximum. À côté d'elle, l'autre fille était, comment dire, pulpeuse. Des seins, des hanches, sans doute trop s'il s'était agi d'un casting de mode. Mais comment savoir quel type de femme ce vieux pervers de milliardaire azéri recherchait? Au premier rang, derrière le conducteur, c'était l'inverse. La fille avait une silhouette de top modèle anorexique, du style à poser pour des publicités de parfums, à exposer en affiches immenses l'ovale parfait de son visage, ses longs cils, sa bouche en fleurs, ses ongles interminables. Restait la dernière, au fond du car. La fille était un peu plus âgée qu'elle, une trentaine d'années au moins. Mais quelle classe! Ses longs cheveux noirs tombaient sur ses épaules nues. Une allure de cheval sauvage indomptable. La plus dangereuse, paria Idil. Elle allait devoir jouer serré. La petite fille dans le fond du véhicule pleurait à présent. Idil se força à ne pas penser à elle, à ne pas faire le rapprochement avec les larmes de sa petite sœur quand elle était partie pour Vannes. Le car ralentit. Il parvenait à la frontière. La route qui s'enfonçait dans la plaine avait quelque chose d'irréel. À 100 mètres au nord, les méandres de l'Arax bordés par un haut barbelé marquaient la frontière arménienne. À 100 mètres au sud, les derniers versants de la montagne pelée appartenaient à l'Iran. Droit devant, au bout du corridor, on atteignait le passage entre la Turquie et le Nakhitchevan. Jamais Idil ne s'était aventurée jusque-là. C'était la première fois qu'elle voyait le fameux pont de l'espoir construit au-dessus de l'Arax. Sur 1 kilomètre, des camions et des voitures turques faisaient la queue pour passer la frontière et se ravitailler en essence, 2 fois moins cher côté Nakhitchevan. Les véhicules en sens inverse étaient chargés d'un inimaginable bazar. Sable, ciment, pommes de terre, pastèques, ferraille, vieux meubles. Le pont de l'espoir avec la Turquie était le seul lien terrestre entre la République enclavée et le reste du monde. Par lui passait tout ce qu'on ne pouvait pas fourrer dans les soutes d'un avion. Le car progressait mètre par mètre. Les branches que charriait la rivière Arax avançaient plus vite qu'eux. Idil repensa au cours de ce jeune prof d'histoire à Vannes, qui bandait en pleine amphi rien qu'à plonger les yeux dans son décolleté. Il leur avait rappelé que cette route, celle qui traversait le Nakhitchevan, puis Igdir et la Turquie, avait été de tout temps la grande route commerciale du Moyen-Orient, la route des caravanserails, de la soie, du pétrole, des esclaves, des putes. Tout le commerce des Perses, des Ottomans et des Slaves passait par ici. Et autour de lui gravitaient depuis la nuit des temps des hordes de bandits, tels les chacals suivant les caravanes. Les sanglots redoublaient à l'arrière du car. Était-ce d'avoir franchi la frontière turque? Cette fois, Idil ne réfléchit plus. Elle se leva et, sans un regard pour les gardes, alla s'asseoir à côté de la petite fille. Aucun des types ne réagit. « Tu t'appelles comment ?» murmura Idil. La fillette était étrangement grande en comparaison de son visage d'enfant. Des cheveux très noirs et longs barraient des yeux gris, presque translucides, comme Idil n'en avait jamais vu auparavant. Elle n'obtint aucune réponse. L'enfant serrait toujours son objet de bois entre ses mains. Une petite licorne sculptée. Idil se contenta de lui sourire et décida de rester assise à côté d'elle. Les autres filles, écouteurs de MP3 vissés dans les oreilles, ne semblaient même pas avoir remarqué la gamine. Une heure plus tard, ils roulaient sur la seule route du Nakhitchevan. Une longue coulée de bitume coincée entre 2 montagnes arides. Les douaniers avaient ouvert des yeux du loup de Tex-Avery en découvrant les occupantes du car, mais ne leur avaient pourtant demandé aucun papier. Bakchiche, bien entendu. À mesure qu'Idil s'enfonçait dans ce pays inconnu, une incontrôlable angoisse serrait sa gorge. Sans réfléchir, comme s'il s'agissait d'un geste naturel, Idil prit la main de la petite fille. Au fond, elle était aussi terrorisée qu'elle. Elle remarqua que la licorne de bois était un peu abîmée. La fillette l'avait sucée, rongée, au point d'y laisser de petites marques de dents et de sang. Idil se pencha encore vers sa voisine. Il était difficile de lui donner un âge. Sa grande taille, contrastant avec sa figure enfantine, continuait de la troubler. « Tu aimes les licornes ?» Toujours aucune réponse. « N'aie pas peur, tu n'es pas toute seule, je suis là. » Elle caressa sa main. La gamine se laissa faire. Puis, au fil des kilomètres, elle s'abandonna contre son sein. Un peu rassurée, peut-être. Elles restèrent ainsi un moment. « Tu t'appelles comment ?» répéta enfin Idil. « Aman !» La fillette avait parlé un peu fort. Cela l'avait surprise. Derrière elle, les 2 eunuques la dévisageaient avec un regard dur. Idil se sentait maintenant presque encombrée avec cette gamine appuyée contre elle. Elle lutta contre l'envie sordide de la repousser. « Trouver autre chose !» Et ta licorne, elle s'appelle comment ? Aman chuchota cette fois, comme si c'était le plus grand secret du monde. Leka. L'intensité qu'avait mise la fillette dans sa réponse fit frissonner la jeune femme. Le palais d'Ishak Pacha apparut au détour d'un virage. Une pure merveille. encore plus beau que tout ce qu'Idil avait pu imaginer. Le conducteur balafré leur expliqua en se garant que le palais du milliardaire azéri Parastoukan était la réplique exacte d'un autre palais, côté turc, près de Dogu Bayazit, abandonné depuis des siècles.
« 366 pièces, » précisa-t-il. « 24 rien que pour le sérail. »
Tout un programme. Le balafré fit un signe au type du fond. Il se leva et Idil comprit que les eunuques allaient les séparer. Elle serra plus fort encore la main de la fillette et murmura « Ne t'inquiète pas, Aman. Regarde ce palais. Nous sommes deux princesses. » Un barbu au regard noir se tenait derrière elle. La peau d'Idil était picorée de chair de poule, comme si des milliers de flèches acides s'étaient plantées sur elle, comme autant de bonnes raisons d'obéir sans réfléchir, sans se poser de questions. De quoi se mêlait-elle? Les autres filles étaient déjà sorties du car, dociles. Elle allait tout gâcher, la chance de sa vie. Elle ne lâcha pourtant pas tout de suite la main d'Aman, attendit quelques secondes, rien que pour emmerder le malabar derrière elle, rien que pour soulager sa conscience. Elle posa un baiser sur la joue d'Aman. « À très bientôt, ma grande. Il y a 366 pièces dans le palais, mais si ça se trouve, on sera voisines. » Aman ne répondit pas. Elle se contenta de se presser une dernière fois contre elle et discrètement, sans que l'eunuque dans leur dos puisse le voir, glissa dans la paume d'Idil le collier qu'elle avait décroché de son cou. Il s'agissait d'un banal lacet de cuir, accroché à un rond de cuivre, gravé d'une simple croix inclinée, un trait long et un trait court qui se croisaient. Idil referma la main. Idil observa la petite Aman s'éloigner, encadrée par les deux hommes, sa licorne de bois à la main, la gorge nouée. Puis, elle suivit les autres filles, subjuguées malgré elles. Elle admira longuement les labyrinthes de murs jaunes, les porches ouvragés, la forêt de toits pourpres, hérissée en dôme ou en triangle, le haut minaret brique et ocre dominant la plaine. Un palais des mille et une nuits. Elle se força à réfréner son excitation de gamine, rêvant à un destin de Scheherazade. Une dizaine de gardes armés, immobiles, étaient plantés devant l'entrée. Les cinq filles se laissèrent conduire dans le dédale de couloirs jusqu'à une pièce aussi vaste que la cour intérieure d'un caravansérail. La lumière filtrait par des fenêtres longues et étroites. Les jeunes femmes attendirent sans broncher. Idil, pour sa part, promena un regard curieux dans la salle. On se serait cru dans un musée. Un étrange musée. La pièce regorgeait d'objets d'art divers, de tableaux, de sculptures, et surtout, sur des rangées entières, de livres. Des dizaines de livres qui tous parlaient de la même chose. L'Arche de Noé. Des ouvrages en français, en anglais, en turc, en allemand, en russe. Idil s'étonna en découvrant sur l'un des murs une affiche en anglais et en chinois qui annonçait l'ouverture d'un parc d'attractions à Hong Kong, entièrement consacré à l'Arche de Noé. Idil avait grandi au pied de la Rara, mais n'en avait jamais entendu parler. Elle longea lentement les murs. Sur l'une des étagères, un livre à couverture rouge attira son attention. Il était posé sur un présentoir, derrière une vitre de verre, comme un livre saint dans une église. Idil se pencha. Le titre était écrit en allemand. Elle ne comprit que le nom de l'auteur. Emmanuel Kant. Un philosophe, Idil avait au moins retenu cela de la fac. Visiblement, ce Parastoukan ne collectionnait pas que les filles aux yeux verts. Qu'attendait-il de la fille qu'il choisirait? En faire l'hôtesse de son palais? Son ambassadrice? Sa favorite? Idil était conquise. Tous les rôles lui convenaient. L'homme à la cicatrice revint, accompagné de deux gardes.
« Nous allons vous conduire au sérail. Préparez vos affaires. » Vous pourrez vous y changer. Le casting débutera dans une heure. »
Idil, malgré elle, serra le collier de cuir et cuivre dans sa main et repensa à la petite Aman, à ses yeux gris mouillés, à sa licorne rongée. Que venait faire cette gamine dans ce palais? Dans laquelle des 366 pièces l'avait-on emmenée? Pour quelle étrange raison? Idil s'obligea à réagir en observant les quatre autres filles aux yeux verts. Sexy, magnifique. Conquérante. Le balafré leur avait donné une heure. Il fallait qu'elle oublie cette gamine, vite. Il fallait qu'elle se prépare. Il lui restait moins d'une heure pour devenir la plus belle.